L'actualité des idées dans la deuxième partie de la Grande Table, comme chaque midi. Après Obama, l'heure du bilan, nous poursuivons aujourd'hui la réflexion entamée vendredi 30 septembre avec la réalisatrice, productrice américaine Norma Percy autour de sa longue série documentaire « Les années Obama » diffusée sur Arte. À réécouter notre entretien à la page de la Grande Table sur franceculture.fr. Course à la Maison Blanche, donc, épisode 2. Pourquoi la question raciale divise-t-elle encore et comment ? Le mois dernier, la ville américaine de Charlotte a été secouée par de nombreux affrontements entre police et manifestants au lendemain de la mort d'un Afro-Américain de 43 ans, Case Lamont Scott, abattu par la police mardi, le jour d'avant, alors qu'il attendait son fils dans son véhicule. Au lendemain du deuxième débat, Clinton-Trump, et à un mois de la présidentielle américaine, notre invité, ce midi, publie au Seuil « La couleur du marché, racisme et néolibéralisme aux États-Unis ». Américaniste, chercheur associé à Harvard et Stanford, maître de conférences à Sciences Po Paris, connu pour son Amérique et sa biographie politique de Martin Luther King, Sylvie Laurent, rebonjour.
Bonjour.
Un mot du débat, peut-être Clinton-Trump. D'abord, cette nuit, un débat sous forme de town hall, d'assemblée publique, soumis pour moitié aux questions des modérateurs, pour l'autre des lecteurs indécis. Un débat multi-diffusé et donc très regardé, comme le premier débat qui avait rassemblé plus de 84 millions de téléspectateurs. Vous l'avez regardé, vous avez pu en voir quelques extraits.
Oui, bien
sûr. Parce que vous êtes resté toute la nuit éveillé devant ce débat. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce que vous avez retenu, cet échange ?
Pour revenir à la question raciale, j'avoue, comme c'était à Saint-Louis dans le Missouri, qui est une ville qui a été marquée encore récemment par des épisodes de brutalité policière, j'avais l'espoir peut-être que les militants de Black Lives Matter parviendraient à se faufiler dans l'audience et à prendre la parole pour essayer de faire entendre cette question-là, d'être dans une forme de disruption qui aurait peut-être permis que cette question raciale soit abordée, parce que sur cette question, comme sur bien d'autres, en rapport avec la tolérance et la question de l'égalité, la position de Donald Trump, mais y compris celles d'Hillary Clinton, peuvent être tout à fait problématiques. Ce qui est assez frappant, c'est que d'une certaine façon, ce town hall, qui était censé être une arène populaire où les gens du peuple auraient la parole, non seulement n'a pas donné lieu à cet épisode de dissidence de Black Lives Matter, mais que d'une certaine façon, les questions du peuple n'ont pas été ce qui a été retenu. Ça a été très écrit et très mis en scène, ce débat. Et disons que c'est l'écriture médiatique qui l'a beaucoup emporté dans ce qui devait être un échange très spontané avec les gens du peuple censés être incarnés par les quelques personnes sélectionnées pour poser les questions.
Antoine Mercier.
Question sociale, question raciale, vous dites, qui n'ont pas été abordées dans ce débat, ou très peu. Et vous dites ensuite, les deux côtés, les positions sont critiquables, ou vous les critiquez en tout cas, vous. Est-ce que c'est parce qu'ils se rejoignent finalement au bout du compte ? Sur ces questions ?
Le point de mon essai est de montrer comment le régime d'inégalité raciale, qui est aussi vieux que la nation américaine elle-même, puisqu'elle est née sur cette contradiction initiale d'une proclamation à l'égalité universelle, tout en justifiant l'oppression et l'exploitation des Noirs, cette question a été d'emblée intimement mêlée, et en particulier depuis la survenue de deux révolutions depuis les années 60, que sont la révolution égalitaire née des droits civiques, cette révolution contre laquelle essaye de s'ériger Donald Trump, celle qui a vu les minorités de couleur et les femmes intégrer l'espace public, mais les Noirs en particulier obtenir enfin cette partie de citoyenneté qu'on leur avait confisquée, et la révolution néolibérale qui consiste à donner au marché et à l'idée de chaque individu responsable de lui-même, l'absence de nécessité de protection de l'État, de rétrécissement de l'État-providence, cette façon dont le néolibéralisme a permis de renforcer les inégalités raciales. Or, il faut bien admettre que Hillary Clinton et Donald Trump, qui est l'incarnation ultime, presque sublime du néolibéralisme, puisque c'est le milliardaire qui s'est rendu célèbre avec la fameuse phrase « Vous êtes viré », donc on est presque dans le pastiche, et Hillary Clinton, évidemment, avec des politiques qui, si elle a essayé de gauchir un petit peu ses positions grâce à la candidature de Bernie Sanders, reste dans cette espèce de d'apologie du marché, de la dérégulation et du nécessaire retrait de l'État d'un certain nombre de ses sphères d'intervention. Et ces deux types de politiques sont des politiques qui sont orthogonales de mesures égalitaires sur la question raciale. J'ajouterais à ceci que Donald Trump s'exprime très fermement pour le maintien du tournant sécuritaire et de ce qu'on appelle aux États-Unis les politiques de stop and frisk, c'est-à-dire d'arrestation au faciès, qui lancée à New York et longuement soutenue par Donald Trump dans cette ville qu'il connaît bien, consiste à arrêter en masse les minorités de couleur avec l'idée que il y a forcément plus de criminels chez les noirs et les latinos, ce qui a donné lieu à des dizaines et des dizaines de cas de déni de justice, à une décision d'une juge expliquant que c'était parfaitement arbitraire. Mais néanmoins, on est quand même toujours dans l'idée que les politiques néolibérales s'accommodent d'un tournant sécuritaire, toujours plus de prisons, toujours plus de policiers, toujours plus de patrouilles dans les quartiers noirs. Et c'est ce qui est à la source de toutes ces altercations funestes pour les Noirs entre la police et les minorités.
Alors vous êtes viré parce que Donald Trump était à la tête d'un jeu de télé-réalité, lui le multimillionnaire, et qu'il le jeu consistait effectivement à embaucher éventuellement des prétendants qui auraient travaillé dans son entreprise après, et s'il n'était pas sélectionné, il prononçait cette fameuse phrase « vous êtes viré », ce qui l'a rendu passablement célèbre. Sylvie Laurent, en effet, un essai, une archéologie, écrivez-vous, des inégalités raciales, la couleur du marché, racisme et néolibéralisme aux États-Unis. Selon vous, malgré l'élection du premier président noir des États-Unis, les inégalités raciales se perpétuent. Si le combat pour les droits civiques a permis une égalité formelle devant la loi, le combat pour l'égalité réelle a été abandonné par l'État fédéral. Le néolibéralisme assumé reproduit structurellement au sein de la société américaine un racisme qui ne s'avoue pas comme tel. L'Amérique est-elle raciste aujourd'hui, diriez-vous, Sylvie Laurent?
Alors je vais faire comme malheureusement beaucoup de chercheurs et d'intellectuels, essayer de tourner de beauté en touche et de vous expliquer que je donne comme définition du néo-racisme cette idée selon laquelle il existe différentes sortes de racisme, et pour essayer de vous répondre très clairement, oui, bien sûr. Si on entend par racisme ce qui était, d'une certaine façon, le racisme à la papa, c'est-à-dire l'explicitation outrancière et manifeste de l'infériorité biologique entre les races, la nécessité de maintenir une stricte ségrégation entre les blancs et les noirs et l'appel à des lois qui instituent un apartheid racial, bien sûr que tout ça est derrière nous. D'ailleurs, c'est puni par la loi. En revanche, lorsque vous demandez aux Américains aujourd'hui ce qu'ils pensent de la situation raciale, pour la majorité d'entre eux, les Noirs ne subissent pas davantage de discrimination que les Blancs. Si les Noirs ne réussissent pas et continuent à être surreprésentés parmi les pauvres et les exclus, c'est parce que eux-mêmes ne font pas preuve de ces valeurs au travail, de cette éthique du travail et du labeur qui est propre à la civilisation américaine. Et dernier point, ils considèrent que les Noirs revendiquent trop et qu'ils demandent trop. C'est-à-dire que cette espèce de dénégation face à la réalité de l'inégalité raciale, cette idée selon laquelle ils ont déjà beaucoup obtenu et que ça va bien comme ça, après tout il y a un président noir, que nous demande-t-il encore ? Cette façon de considérer qu'on est post-raciaux maintenant, ça suffit de revendiquer.
De quand ça date le passage finalement du racisme à la papa?
Alors
comme
c'est très
vous
vieux l'histoire des politiques d'aveuglement à la race, elles datent de la fin du 19e siècle, mais depuis les droits civiques, depuis le vote formel du fait que désormais les Noirs pourraient voter, c'est-à-dire, dit-on un peu vite, ça y est, ils sont entièrement citoyens, et l'interdiction de la ségrégation spatiale dans le sud des États-Unis, plus l'adoption de certaines mesures de rattrapage, comme par exemple ce que l'on appelle les politiques dites de politiquement correctes, qui sont en réalité des mesures égalitaires consistant de façon très juste à considérer que le langage aussi est une oppression, et que la façon dont vous nommez les choses peut être une source d'oppression, et que non, on ne peut pas dire nègre, que ça ne se fait pas. Ça, c'est considéré, si vous voulez, comme un mode de régulation sociale par beaucoup, qui est une oppression. De même que l'impôt est confiscatoire, le fait d'interdire aux gens de parler comme ils le souhaitent est considéré comme beaucoup d'Américains comme une force, comme une forme d'oppression que l'État leur impose. Et c'est là que le néolibéralisme rejoint la réaction raciale. C'est que là où les grandes entreprises et le milieu de la finance s'opposent à l'État parce qu'ils s'opposent aux régulations, au fait de payer des impôts, au fait de se voir imposer des normes gouvernementales, le fait de devoir engager et des hommes et des femmes, le petit blanc de la classe moyenne considère que l'impôt est un problème parce qu'il sert à donner une assurance sociale aux Noirs, mais aussi que le gouvernement est source d'oppression parce qu'il impose le respect aux femmes, l'égalité de traitement avec les Noirs, et que, relativement, c'est une forme de privation de ce qui était son privilège. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du fait que ce qui fait la force de Donald Trump, c'est son outrance, c'est-à-dire le fait de ne pas céder, de ne pas accepter les normes de la société, les normes sociales, les normes de politesse, les normes de convenance, qui sont considérées par certains comme une forme de politiquement correct, c'est-à-dire cette façon tout à fait biaisée et condescendante de parler de simplement le fait de reconnaître que dans l'espace social, il y a désormais place pour des revendications justifiées que sont celles des minorités de couleur qui sont opprimées, qui sont structurellement déclassées et que c'est une parole qui est légitime. La reconnaissance de cette légitimité-là par l'Américain blanc moyen est considérée comme une offense pour lui.
Et alors vous racontez longuement, Sylvie Laurent, dans cet essai, comment, selon vous, le retrait de l'État fédéral au profit des États fédérés s'est fait aussi au détriment de cette question raciale, puisqu'il n'y a plus de régulation ou moins de manière de rectifier effectivement les inégalités raciales. Vous avez quand même cité Barack Obama, le premier président noir des États-Unis, dont on pensait que la personne, le corps, la figure même, allait rectifier toutes les erreurs du passé. Et vous dites un bilan déconcertant, des inégalités involontairement exacerbées et un pacte faustien passé avec le pays concernant Barack Obama. Barack Obama qui laisse une société presque plus divisé que jamais. Et pourtant, il avait fait de l'égalité entre les Blancs et les Noirs une de ses priorités. Pourquoi il a échoué, d'après vous ?
Je ne sais pas s'il a jamais fait de l'égalité entre les Blancs et les Noirs une priorité. C'est quelqu'un qui voulait profondément incarner la réconciliation, qui a pensé que son métissage était une métaphore de la réconciliation de ce pays, et qui appartient à cette tradition noire conservatrice qui pense que chaque individu a sa chance et qui a voulu être l'exemple, cette exemplarité qui veut que, c'est ce qu'il disait dans le premier discours qu'il a fait à la Convention démocrate en 2005 je crois, il était tellement improbable pour moi d'être là, mais moi j'y suis parvenu. Et donc si moi j'y parviens, alors c'est bien le signe que chacun peut y parvenir. Et cette espèce de...
Que l'Amérique fonctionne.
Voilà, de rhétorique très, très illusoire et très messianique de...
Il a conforté cette idée que
ce pays exceptionnel,
tout le monde pouvait y accéder.
Sauf que ce qu'il n'a pas vu, c'est une des ruses du néolibéralisme moderne, c'est de prendre quelques individus exceptionnels qui sont parvenus à faire partie de l'élite de la société pour expliquer que finalement, si eux y sont parvenus, c'est bien le signe que tous les autres, ceux qui n'y parviennent pas, ne se donnent pas la peine, ne sont pas les méritants. Et le discours de Barack Obama vis-à-vis de la question raciale a toujours été de dire « arrêtez de vous plaindre, ça suffit le discours de victimisation, travaillez deux fois plus dur que les autres et vous verrez, vous pourrez y parvenir ». Ce qui est d'une certaine façon un discours qui prend acte du régime d'inégalité dans lequel on est, qui veut que pour réussir quand on est noir, c'est deux fois plus dur que les autres qu'il faut travailler. Et les militants les plus radicaux aujourd'hui lui disent « mais au nom de quoi faudrait-il travailler deux fois plus ?» C'est une façon de naturaliser les inégalités, de considérer qu'elles sont une donnée et de ne pas les prendre à la source. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que la source des inégalités, ça n'est pas les propos racistes de Donald Trump, ça n'est peut-être même pas les exemples de brutalité policière, c'est l'inégalité d'accès aux ressources. C'est le fait que pour la plupart des Noirs aujourd'hui, accéder à une école décente, à un supermarché où on peut acheter des fruits et des légumes, à un centre de santé où on peut être soigné, à un centre qui soit l'équivalent de la NPE pour trouver un travail et une formation professionnelle, c'est devenu inaccessible. On est dans un régime d'inégalité d'accès aux ressources qui a été sciemment organisé par 50 ans de politique conservatrice mais aussi démocrate aux États-Unis, qui a vu une espèce de ségrégation.
Donc l'État est quand même complice, pardon de vous interrompre, de ce néolibéralisme que vous dénoncez.
Mais c'est ça qui est un petit peu schizophrénique aux États-Unis. On utilise le mot pharmacon, vous savez ce mot grec, pour dire que quelque chose est à la fois le remède et le poison. Et l'État américain, c'est le remède et le poison. raison.
Oui, parce que vous le voyez encore comme un garant aujourd'hui.
Et c'est ça, le grand paradoxe. Le grand paradoxe, c'est que pendant très très longtemps, les institutions publiques ont été à l'origine de la discrimination, à l'origine d'un système d'inégalité qui a maintenu les Noirs dans un système de subjection, et que aujourd'hui, il n'est que les mesures publiques de protection contre les discriminations. Prenons un exemple très simple, la protection du droit de vote. On pensait que les lois de 1965 étaient inscrites dans le marbre, qu'elles étaient sacrées. Il est interdit d'empêcher un noir de voter. Jusqu'à ce que la Cour suprême, il y a quelques années, alors que les États du Sud, en réaction par revanchisme vis-à-vis de l'élection de Barack Obama, a décidé de faire passer des mesures confiscatoires du droit de vote dont les minorités sont disproportionnellement dans lesquelles les minorités sont disproportionnellement représentées, la Cour suprême, dans une logique néolibérale de nous sommes tous post-raciaux et l'État n'a plus de rôle à jouer dans la régulation sociale, a décidé qu'il n'était plus nécessaire que ces États du Sud qui avaient changé les lois obtiennent l'autorisation du Congrès pour changer les lois. Autrement dit, c'est une façon de leur donner carte blanche, de leur permettre de priver de concrètement.
De quelle façon? On voit pas bien comment, concrètement, comment ça se
passe. Alors, en l'occurrence, ces États-là ont fait passer un certain nombre de lois, notamment, on a beaucoup parlé du fait qu'ils ont rendu obligatoire le fait de présenter une carte d'identité avec photographie, ce dont les plus pauvres sont privés, puisque ça suppose d'avoir ou un passeport, c'est-à-dire de voyager, ou un permis de conduire, ce que beaucoup n'ont pas, ou bien ils ont réduit le nombre de jours où il était possible de voter. Or, on vote souvent le mardi, c'est-à-dire jour de travail aux États-Unis, donc les gens qui travaillent dans l'industrie du fast food ou dans les milieux populaires ne pouvaient pas y aller, donc il y avait des jours qui étaient prévus pour eux avec eux, ils ont été réduits. On a instauré aussi des bureaux de vote dans des endroits très très excentrés par rapport aux centres populaires où vivent les minorités. Vous voyez, toutes ces petites mesures ont été adoptées par près d'une vingtaine d'États, privant de leur droit de vote des centaines de milliers de jeunes gens latinos et noirs, et la Cour suprême a considéré qu'il n'était plus du devoir de l'État de réguler tout cela. Vous voyez, dans l'idée selon laquelle il n'y a plus de racisme, il n'y a plus de pratiques discriminatoires, et donc par conséquent, il revient à chacun de se débrouiller pour aller voter. Et ça fait partie de cette logique néolibérale dont je parle, qui consiste à dénier à l'État sa capacité d'instaurer la justice et de s'en remettre au marché. Et de dire que chaque individu est un entrepreneur de lui-même, qu'il n'a qu'à se prendre en main, et que si les Noirs ne trouvent pas de travail, c'est donc qu'ils ne se lèvent pas assez tôt pour aller travailler, pour reprendre une formule utilisée ici, ou bien s'ils sont dans une altercation avec la police qui tourne mal. La majorité des Américains aujourd'hui vous dira que la raison pour laquelle ça tourne mal, c'est sans doute que le noir avait quelque chose à se reprocher.
Sauf que par ses décisions, la Cour suprême, en déshabillant Paul, a rhabillé Jacques, c'est-à-dire qu'en dépossédant ou en enlevant ses prérogatives à l'État fédéral, elle les a quand même confiées aux États fédérés, qui peuvent, de leur côté, assumer ce travail d'égalisation sociale et d'équité raciale, au même titre que l'État fédéral le faisait auparavant.
Oui, peut-être aurais-je dû vous dire que tous ces États sont bien sûr dirigés par des républicains, dont le projet même et le démantèlement de toutes ces mesures. Aucun de ces États n'est décidé par un démocrate. Et le but du Parti conservateur, mais encore une fois, il n'en a pas l'exclusivité, c'est de détricoter l'ensemble de ces mesures. Il y a quelque chose d'assez frappant qui doit être compris pour comprendre le système politique américain et là où on en est. C'est qu'au lendemain du vote des droits civiques, on a eu une espèce de sectorisation extrême entre les deux partis politiques. C'est un système très bipartite qui ne laisse pas de place au troisième parti aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que le Parti républicain, depuis la fin des années 60, c'est le parti de l'homme blanc qui entend résister à ce que le président démocrate Johnson a fait passer comme loi, c'est-à-dire l'égalité raciale. Et l'ensemble des minorités, des jeunes et des femmes, se sont massivement portés vers le parti démocrate. C'est-à-dire que le parti républicain, tel qu'il existe depuis Nixon, c'est le parti qui veut que l'Américain moyen soit un homme blanc qui n'est pas à être dans la repentance. C'est pour ça que Donald Trump n'est pas une aberration. Je défends l'idée selon laquelle il est ancré dans 40 ans de politique républicaine qui a consisté à se dire que l'homme blanc devait rester la norme, que ses privilèges n'étaient pas indus, alors qu'ils étaient évidemment aux dépens des femmes et des minorités. Et aujourd'hui, que l'on demande de partager l'espace, de reconnaître que l'attitude du policier blanc qui n'est jamais jugé autrement que par un recours légitime à la à la légitime défense, que cela est injuste, c'est quelque chose qui entraîne ce revanchisme et ce ressentiment. Et donc, il n'est que l'État fédéral, avec l'augmentation du salaire minimum, la création d'écoles publiques qui fonctionnent, le fait de payer correctement les enseignants, et d'ailleurs actuellement à Chicago, ils sont en grève, et c'est une ville où la population noire est la première frappée par la fermeture des écoles publiques, il revient à l'État fédéral de protéger les minorités et de mettre en place des politiques d'égalisation.
Mais alors là, à vous entendre, on aurait le sentiment que côté démocrate, on a fait mieux pour protéger notamment les Afro-Américains, pour parvenir à une égalité réelle entre les Noirs et les Blancs. Vous dites tout le contraire dans votre essai. Pour vous, aujourd'hui, d'ailleurs, Barack Obama n'a pas fait mieux que les autres. Démocrate comme républicain, de Nixon à Obama, la dérégulation dans tous les secteurs économiques et sociaux, du logement à l'éducation, s'est faite au détriment en fait des Afro-Américains depuis de nombreuses décennies. En fait,
hein. Oui, c'est exact. On peut dater à peu près du mandat de Bill Clinton, le grand tournant néolibéral du Parti démocrate. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si aujourd'hui Donald Trump attaque à ce moment-là, c'est-à-dire le moment où les démocrates, avec Bill Clinton, ont adopté l'idéologie néolibérale, c'est-à-dire le gouvernement est le problème, il n'est pas la solution, et il nous faut moins de... Bill Clinton a eu cette phrase, je suis très fière de pouvoir dire que je vais supprimer des centaines de milliers de postes de fonctionnaires pour créer des centaines de milliers de postes de policiers. Et il y a dans cette espèce de tournant vers le retrait de l'État fédéral en matière sociale, ce qui s'est traduit pour Bill Clinton par le fait de réformer l'assurance sociale qui a de façon disproportionnée touché les Noirs et en particulier les mères célibataires et les Noirs les plus pauvres, et dans le fait de créer un État sécuritaire encore plus renforcé que sous Ronald Reagan. Il y a dans ce tournant néolibéral un renforcement de la criminalisation des pauvres. C'est très intéressant quand dans les années 60, les Noirs ont commencé à manifester dans la rue pour réclamer justice, pour réclamer juste le droit d'être des citoyens comme les autres. Les premiers élus républicains, et notamment Ronald Reagan qui venait d'être élu à la tête de la Californie, ont dit qu'est-ce que c'est que ces agitateurs ? Il faut que nous restaurions l'ordre public. Et l'ordre public est devenu une espèce de nom de code qui là aussi n'est pas explicitement raciste quand on parle de restaurer l'ordre public. Mais chacun entend bien de façon subliminale qu'il s'agit de garantir par le sécuritaire et par le punitif, c'est la population blanche qui vit dans des banlieues parfaitement hermétiques au reste de la ville, de ces Noirs qui manifestent, de ces Noirs criminels qui veulent nous prendre ce qu'on a, qui veulent plus d'égalité, qui veulent de l'assurance, qui veulent des écoles, et quoi d'autre encore, que veulent-ils ces Noirs qui sont des criminels? Et malheureusement, le premier gouvernement Clinton a en effet participé de cette criminalisation du Noir, en multipliant, en particulier sur la réforme du droit pénal, sur les stupéfiants, les raisons qui poussent l'opinion publique à considérer que derrière chaque Noir, il y a un délinquant, derrière chaque Noir, il y a un dealer de drogue. Et c'est ce qui mène aussi à l'espèce d'impunité de la police américaine aujourd'hui, qui a tendance à considérer que derrière chaque Noir, il y a potentiellement un criminel. Et ça vient en effet de décennies de politiques néolibérales dont les deux pendants sont la criminalisation des pauvres d'un côté et de l'autre, le retrait de l'État au profit d'un tout marché, comme si le secteur privé, des prisons privées aux écoles privées, était l'issue.
Bill Clinton, qui s'est aussi illustré en dénigrant en partie la réforme de la santé menée par Barack Obama, l'Obamacare, en estimant que aux États-Unis, ils vivaient dans un système de fous où 25 millions de personnes supplémentaires sont assurées, mais ceux qui se démènent et travaillent 60 heures par semaine finissent par payer deux fois plus qu'avant, avec une couverture divisée par deux, c'est la chose la plus folle du monde. Avant de vous donner la parole, pardon Antoine, merci pour une question à notre invitée, l'américaniste, historienne Sylvie Laurent. Est-ce que, comme Donald Trump, vous dites Hillary Clinton, Bill Clinton, c'est la même chose? Est-ce que vous la rendez comptable? Alors peut-être pas des frasques de son mari, comme l'a fait Donald Trump encore cette nuit, mais du bilan de son mari. Ou est-ce que vous pensez qu'elle peut mener une politique différente en la matière?
Alors,
réincarner l'esprit démocrate.
La première chose que je dirais, c'est que attaquer Hillary Clinton en lui parlant de son mari, c'est évidemment la chose la plus sexiste du monde, puisque c'est comme si la femme elle-même n'était pas capable de rendre compte de ses propres actions et qu'elle était redevable des infidélités de son mari. Donc jamais, évidemment, je ne donnerai écho à cela.
Mais de son bilan.
Et par ailleurs, ce que l'on sait pour l'instant, c'est que d'une part, elle a en partie reconnu, à la suite des excuses présentées par Bill Clinton, qui a présenté des excuses vis-à-vis de sa politique carcérale, elle a elle-même expliqué que ça avait été une erreur. Et puis, elle a eu une grande chance, Hillary Clinton. Sa grande chance, ça a été d'être mise au défi par Sanders lors des primaires, de faire une véritable politique de redistribution, une véritable politique égalitaire. Et grâce à cette espèce de petite stimulation, de petit aiguillon de Sanders, elle a dû prendre des positions sur le salaire minimum, sur la brutalité policière, sur la réforme du droit pénal, qui vont incontestablement dans la bonne direction, plus encore puisqu'elle propose aujourd'hui la mise en place d'une option publique, c'est-à-dire une forme d'universalisation de l'assurance santé, ce qui serait évidemment un mode de redistribution qui romprait avec les politiques néolibérales longtemps menées.
Racisme et néolibéralisme aux États-Unis, c'est le sous-titre du livre. On a bien compris votre thèse, Sylvie Laurent. Et on peut s'interroger quand même sur ce mot de racisme à nouveau. Vous avez parlé de néo-racisme. À partir du moment où, et vous en avez d'ailleurs parlé vous-même comme ça incidemment, cette question du néolibéralisme touche simplement les catégories les plus pauvres de la population. Et j'allais dire également, même si parfois effectivement le facteur racial s'ajoute à cette dimension. Il y a donc un problème global qui fait que les pauvres aux États-Unis, précisément, sont moins aidés. Il y a moins de volonté de l'État-providence de soutenir des gens qui n'ont pas les moyens, éventuellement, d'avoir une chance de s'en sortir. Pourquoi est-ce que vous faites une telle différenciation entre la classe pauvre en général et spécifiquement cette question raciale pour les Noirs ?
Ah, mais en l'occurrence, je ne fais pas de distinction. Mon propos, alors je me suis mal exprimé.
Non, mais dans le livre, on voit que c'est un problème pour vous, essentiellement, de racisme de couleur.
C'est une question de racisme.
Pourquoi pas racisme anti-pauvre, finalement ?
Ah, parce que c'est un moyen. Vous savez, le racisme a depuis très longtemps été utilisé, je reprends une vieille analyse marxiste, mais qui est une pertinence absolue, d'éviter l'union des pauvres entre eux. Et depuis l'origine, on s'est assuré que le racisme soit entretenu dans les catégories populaires blanches pour que noirs et blancs ne s'unissent pas face à la classe dominante. Ça semble très très daté, mais c'est une réalité. Il y a une chose qui est important à comprendre, c'est que les néolibéraux, c'est-à-dire ces gens qui ont nourrit d'une certaine façon l'idée selon laquelle l'Amérique était un pays de petits entrepreneurs indépendants qui n'avaient jamais demandé d'aide à l'État et qui avaient par leur travail réussi, s'est heurté à une chose que personne n'avait vue, qui est l'explosion des inégalités sociales depuis une trentaine d'années. Je ne pense pas que le néolibéralisme touche uniquement les classes populaires. Le néolibéralisme, cette politique d'austérité organisée qui veut que l'on baisse les salaires, que l'on dérégule et que l'on permet la privatisation de plus en plus grande des services de la santé, de l'éducation et de la police, a mené à une chose très très simple qui est, pour vous donner un simple chiffre, le patrimoine moyen d'un Américain standard depuis 2003 a baissé de moitié. Ce que personne n'avait vu, c'est que ce privilège donné aux blancs par les institutions américaines allait se heurter à une réalité qui est que les inégalités sociales ont frappé l'ensemble de la population. Alors bien sûr, les noirs sont beaucoup plus frappés que les autres, mais le sentiment de déclassement relatif de l'Américain moyen a nourri une espèce de ressentiment. Le moment où l'Américain moyen a vu les usines fermées, son salaire baisser, être obligé d'avoir 2-3 boulots ensemble pour pouvoir avoir un salaire suffisant, c'est arrivé à un moment où l'université s'est ouverte aux femmes et aux minorités, où de plus en plus de gens ont enfin réussi à accéder à une forme de classe moyenne. Et donc, celui qui était l'homme blanc moyen qui avait ce privilège d'avoir un bon job, d'être la norme et que les autres gravitaient autour de lui, a un sentiment subitement que son salaire à lui n'augmente pas, il a parfaitement raison, que son patrimoine baisse, il a parfaitement raison, qu'il ne peut plus payer les frais de scolarité de ses enfants, il a parfaitement raison, mais il en déduit que la raison pour laquelle lui n'y parvient plus, c'est parce que d'autres y parviennent. C'est voir la vie sociale comme un jeu à somme nulle. Il se dit, si je ne peux plus payer les frais de scolarité pour mon fils, c'est parce que les Noirs et les femmes ont pris les places qui étaient réservées traditionnellement aux gens comme moi. Et donc il y a cette idée qu'on a pris ce qui leur revenait. Et c'était un privilège indu, mais pour eux, c'est perçu comme une forme de dépossession. Et plutôt que de s'en prendre à l'hyper-élite et aux banquiers, aux responsables d'université qui ont fait exploser les droits de scolarité, ou aux banques qui font peser des droits usuraires sur la classe moyenne, ils ont l'idée que ce sont ceux qui ne méritent pas. Ce sont les parasites du système qui, aidés par un État élitiste, de gauche, qui est forcément dans le politiquement correct, a pris à l'Américain moyen blanc, celui qui travaille dur et se lève tôt le matin, pour donner à ceux qui ne méritent pas. Et j'étais très surprise d'écouter dans votre journal que c'est quelque chose qu'on vient d'entendre chez Nicolas Sarkozy, qui a lu son petit Trump illustré et qui a eu cette phrase consistant à dire que le français silencieux voyait qu'il était imposé par un État qui prend à ceux qui travaillent et qui méritent pour donner à ceux qui ne font rien. Et voilà cette espèce de logique binaire des méritants face à ceux à qui l'on donne alors qu'ils ne méritent pas et qu'ils sont dans l'oisiveté. C'est la même chose aux États-Unis, sauf que depuis toujours, l'intertexte racial vient se surajouter à ça. Tout le monde comprend très bien aux États-Unis que quand on dit oisif, que quand on dit allocataire, que lorsque l'on dit qui n'a pas les valeurs américaines du travail et de l'endurance, on parle des Noirs. C'est en cela que le racisme est toujours présent dans le discours américain.
Avec des parallèles à faire donc entre les États-Unis et la France, toute proportion gardée, ou disons avec des mécanismes peut-être disqualifiants un peu différents. Quoi qu'il en soit, dans la rue, et pas seulement, la colère monte. On va écouter un mot de l'écrivain Ta-Nehisi Coates, que vous aviez rencontré, je crois, l'an passé dans nos studios, auteur de Une colère noire, sortie en France cette année.
En général, les gens aux États-Unis pensent que, vous savez quoi, le racisme, c'est les légumes qui viennent à côté du plat principal. Mais non, c'est le cœur de tout. Le racisme aux États-Unis, c'est pas juste un chaos sur la route, c'est pas quelque chose qui s'est produit comme ça en passant. La suprématie blanche, c'est ça aux États-Unis. On peut pas imaginer les États-Unis sans l'esclavage, sans Jim Crow. Partout où je vais en France, j'entends de la musique américaine. C'est de la musique noire américaine. Cette musique vient de la souffrance des Noirs américains. Il y a littéralement aucune autre culture que ça, sans parler de la richesse qui vient de l'exploitation des Noirs aux États-Unis. Le marché n'existerait pas sans eux. Et c'est une chose très dure pour nous de se rendre compte de ça. Par le passé, les choses explicites étaient interdites. Voilà. Maintenant, c'est contre vous, mais d'une autre manière. Par exemple, les chances de réussite d'un blanc, c'est 70%. Vous, noir, c'est 50%. Vous avez encore une chance, mais c'est pas égal.
Une colère noire, livre sorti en France cette année, qui a beaucoup marqué les esprits aux États-Unis aussi. Il y a aussi le mouvement Black Lives Matter que vous citiez, Sylvie Laurent, mouvement très actif pour porter la question raciale à l'agenda des candidats à la présidentielle, celle des violences policières et de l'injustice sociale. Sommes-nous, Sylvie Laurent, et ce sera peut-être le mot de la fin, dans un nouveau moment sur cette question ?
Non, on n'est pas dans un nouveau moment sur cette question. Toute l'histoire américaine est dictée par une espèce de cyclicité. Mark Twain disait que l'histoire ne se répétait pas, mais que parfois elle rimait. À chaque fois que les Noirs ont obtenu des droits aux États-Unis, à chaque fois qu'ils ont marché vers l'égalité, il y a eu un mouvement de réaction. Ça a été le cas après la guerre civile, lorsqu'ils ont obtenu la libération, la fin de l'esclavage et pour la première fois des droits de vote, le pouvoir blanc s'est remis en place. Ça a été le cas ensuite, après le vote des droits civiques dans les années 60, avec la mise en place, comme je le disais, avec l'outil du néolibéralisme, de mesures de détricotage de tous les droits acquis. Et d'une certaine façon, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la façon dont une certaine partie de l'Amérique fait payer l'élection de Barack Obama. Comment un noir peut-il obtenir le pouvoir suprême alors que moi, le blanc de la base, j'ai le sentiment que je n'y arrive pas. C'est donc qu'il a pris quelque chose qui me revenait de droit. Et donc, une fois de plus, on assiste à une révolution conservatrice dont Trump est le nom et dont on peut compter, heureusement, vous le disiez, sur les mouvements sociaux pour être une espèce de vigilance et assurer que la réaction trouve sa limite.
Un grand merci Sylvie Laurent. La couleur du marché, racisme et néolibéralisme aux États-Unis vient de paraître aux éditions du Seuil. À voir, si vous le souhaitez, au Quai Branly également, l'exposition The Color Line, la ligne de ségrégation en français, titre emprunté confronté à un article de Frédéric Douglass, ancien esclave devenu homme politique, combattant de l'abolitionnisme, de la ségrégation à Barack Obama. De nombreux documents et œuvres d'artistes afro-américains retracent ce combat, ces icônes, ce récit américain. C'est en ce moment au Quai Branly. À partir du 20 octobre, à noter aussi que le peintre Kehine Wiley qui s'exposera lui au Petit Palais, le peintre qui replace toujours l'homme noir au cœur de notre histoire, a découvert un ensemble de 10 œuvres monumentales de lui, vitraux et peintures. Ce sera donc à partir du 20 octobre au Petit Palais. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Luc Jean Reynaud avec Élise Leu.